Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Chansonnier, calico, banquier, enfin banquier travaillant dans une banque, caché dans un petit cagibi obscur, crieur de journaux dans les rues, emballeur chez Hachette, un peu tout, un peu rien. Arrivé à Paris le 1er décembre 1925, le foyer végétalien. Un travail dans la presse anarchiste, mais aussi dans une feuille quelque peu malhonnête, une activité de secrétaire, de rédacteur en fait, auprès d'un journaliste analphabète et maître chanteur. Puis le surréalisme. On aura reconnu l'itinéraire de Léo Mallet et les volets 3 et 4 d'une série de 5 proposés par Hubert Join, les 4 et 5 février 1976 sur France Culture, vous en diront plus.
Lors de notre second entretien, Léo Mallet, nous vous avons un peu perdu de vue au bénéfice de l'affaire Philippe Daudet, mais je pense qu'il était très important et même très intéressant pour les auditeurs que vous évoquiez cette affaire. Maintenant, nous allons vous retrouver arrivant à Paris et descendant chez votre ami Colombe.
Je suis venu à Paris, évidemment, surtout pour être chansonnier. Car l'autre jour, je vous ai parlé de l'affaire Philippe Daudet, je vous ai parlé des anarchistes, mais indépendamment de ça, j'étais un admirateur des chansonniers montmartrois. Je ne sais pas comment leurs œuvres parvenaient jusqu'à Montpellier, car à cette époque-là, il n'y avait pas de radio. Et
j'allais vous poser ce problème,
oui,
cette question.
Oui, ben je crois, voilà, moi j'achetais le Merle Blanc, et peut-être dans le Merle Blanc, y avait-il des chansons d'actualité. Ah, il y avait aussi autre chose. C'est qu'il y avait des tournées. Et notamment, il passait une fois ou deux par an les tournées de la boîte à Fursy. Fursy tenait un cabaret montmartrois à Boulevard de Clichy à Paris. C'était un des grands chansonniers de l'époque. Et ce genre d'esprit me plaisait. Toujours le petit côté satiriste et pamphlétaire me plaisait. Et j'avais dû avoir connaissance de Noël. Noël, des chansons qui avaient dû être publiées, alors soit dans le Merle, soit dans d'autres journaux que faisait Eugène Merle aussi, je ne sais pas, toujours est-il que je me souviens, je n'ai pas seulement écrit à Colomère pour des histoires de poèmes et pour des histoires politiques, si l'on peut dire, d'anarchie et autres, mais j'ai écrit aussi un jour à Noël en lui envoyant une de mes chansons. Et Noël m'a répondu une lettre que j'ai conservée longtemps sur moi et qui a disparu maintenant, me donnant des conseils, des choses comme ça. J'avais trouvé ça très, très, très gentil. Alors je m'étais dit, si je vais à Paris, et j'avais l'intention d'aller à Paris, si je vais à Paris, j'irai le voir. Moi, je voudrais être chansonnier, Montmartrois. Ça me plaisait. J'écrivais des poèmes, disons sérieux. Je ne sais pas ce que je pouvais écrire, que j'envoyais à Colomère, mais d'un autre côté, j'aimais faire des chansons satiriques. Vous voyez, c'était...
Et un peu la rengaine, parce que vous avez même écrit une chanson pour Nestor Burma, d'ailleurs.
Ah oui,
c'était
ça,
beaucoup plus tard. C'était cette veine,
beaucoup
j'imagine.
Beaucoup plus tard, oui. Ah non, oui, c'était ça, si l'on veut. Non, là, c'était différent. Je dois dire, d'ailleurs, que la complainte de Nestor Burma, à laquelle vous faites allusion, j'avais écrit ça quand mes bouquins étaient publiés chez Robert Laffont. C'était très talentueux à côté de ce que je faisais quand j'avais 16 ans. Alors je voulais aller à Paris. Alors je m'en suis ouvert à mon grand-père. Alors à ce moment-là, j'ai travaillé dans une maison de de nouveautés, c'est-à-dire un grand magasin à Montpellier, chez la maison Boca.
Il était calico.
J'étais calico, oui. Et ensuite, j'ai travaillé dans une banque. Alors là, dans une banque...
C'est très bien pour un anarchiste.
Oui, oui, mais dans cette banque, ça a commencé à branler légèrement dans le manche, car le dimanche, je vendais l'insurgé. J'étais le correspondant de l'insurgé. C'était moi qui recevais les journaux. Colomer m'envoyait le paquet de journaux chaque semaine, et je la distribuais dans quelques kiosques. Et puis le dimanche, sur la place de la Comédie à Montpellier, on vendait à la criée, comme ça se fait pour tous les journaux politiques. Et alors, un jour, j'ai été convoqué chez le directeur, qui m'a dit qu'il avait beaucoup d'estime pour moi et tout ça, et qu'il ne m'empêchait pas d'avoir des idées, mais qu'il fallait se mettre à la place d'un client de la banque. S'il voyait un des employés de la banque vendre un journal aussi incendiaire que ce journal anarchiste, il pourrait ne plus avoir confiance dans la maison. Bon, c'était un argument qui en valait un autre, mais... Je dois dire que si des gens me voyaient vendre le journal, on ne me voyait jamais à la banque pour l'excellente raison que j'étais ce qu'on appelle copiste, c'est-à-dire que je recopiais les lettres avant le départ du courrier avec une espèce de presse. Et j'étais dans un petit cagibi absolument obscur. C'est-à-dire que le vrai client, celui qui allait à la caisse ou celui qui déposait des espèces ou des titres, ne me voyait jamais. Alors, bon, mais enfin, c'était quand même un argument. Et j'ai senti que là, ça n'allait pas très fort. Et depuis quelque temps... Je demandais à mon grand-père la permission d'aller à Paris. Et ça, il s'y refusait. Il était contre. Alors un beau jour, fin novembre, j'ai touché ma paye à la banque Castelnau. Je gagnais 150 francs. Je n'ai rien dit à personne. Le soir même, j'ai pris le train. Et le lendemain, 1er décembre 1925, je débarquais à la gare de Lyon à 9h du matin. Parce qu'à ce moment-là, le train pour Paris partait de Montpellier à 7h du soir et arrivait à Paris à 9h du matin. Ce qui m'a permis... de constater que le métro, dont on m'avait dit que c'était un truc extraordinaire, les gens étaient tassés comme des sardines, comme moi je l'ai pris à 9h20, il n'y avait personne. J'ai dit, ça c'est encore un mensonge, les gens qui vont à Paris et qui retournent à Montpellier disent des mensonges sur Paris. Et là je suis allé chez Colomer, qui demeurait rue de Charenton. Alors les premiers temps j'ai couché chez Colomer sur un divan qui avait abrité à une époque Germaine Berton et à une autre époque Émile Cottin. C'est-à-dire Germaine Berton, qui a tué d'un coup de revolver Marius Plateau, oui. Un des collaborateurs de Léon Daudet, et Émile Cottin, qui avait tiré sur Clémenceau. On retombe dans les mêmes ornières.
Oui, oui, c'était un canapé historique et très important. Bien sûr. C'était presque le canapé de nativité de Nestor Burma, en quelque part.
Mais oui, qui était loin encore, bien et qui n'était pas... Bon, alors, dans l'après-midi, des copains sont venus chez Colomer. Le soir même, j'ai cassé la croûte au foyer végétalien. Végétalien, attention, pas rien. Le végétalien est un type qui ne mange exclusivement que de l'herbe.
C'est ça.
Le végétarien se permet de manger des œufs. Le végétalien, pas du tout. Il y avait même un végétalien, parce que chez les anards, on trouve des personnages étonnants. Il y en avait un qui prétendait que pour bien savourer l'herbe, il fallait se mettre à quatre pattes et la bouffer comme ça. La mettre sur une table, c'était déjà une hérésie.
C'est ça. Et le tout avec de l'eau claire.
Oui, c'est ça. Ah oui, ça...
Parce que l'anarchiste, il faut quand même bien dire que les anarchistes refusaient l'alcool.
Ah oui, oui.
Quasiment tous.
Ah oui, la drogue, l'alcool, d'ailleurs, les bandits tragiques étaient contre les drogués et les baudelairiens.
Oui, les baudelairiens, bien sûr.
C'est inouï. Alors, le foyer végétalien, il y avait des dortoirs, ça coûtait 15 francs par semaine. Alors là, on était toute une bande de personnages plus ou moins douteux. Et on dormait là, comme ça, dans le froid. Il y avait un poêle qui ne chauffait pas beaucoup. Et moi, j'étais venu à Paris pour être chansonnier. Alors j'en ai parlé à Colomer, qui me dit, écoute, va voir Vincent Ispa. D'ailleurs, tu es à peu près du même pays que lui. Lui, il est de Toulouse, toi de Montpellier. Va le voir de ma part, je le connais. Et il te donnera certainement des tuyaux. Alors je suis allé voir Ispa. Je lui ai fait voir mes machines.
Il était en pleine gloire.
Ah oui.
Il était déjà vieillissant, d'ailleurs.
Ah oui, je suis allé le voir au Noctambule, le cabaret Montmartre du quartier latin, rue Champollion. Il a regardé ce que je faisais. C'était un brave vieux, parce qu'il aurait dû me dire, non, vous n'avez pas autre chose. Vous n'avez pas un métier.
Il aurait dû vous déconseiller l'épreuve des planches.
Alors il m'a dit, allez voir Maurice Allais, il favorise les jeunes, tout ça, à la Commune Libre de Montmartre. Alors c'était Place Quentin-Tapécoeur. J'y suis allé. Et alors, j'y suis allé, mais je crois que j'ai pris des forces. J'y suis allé le 25 décembre 1925. La veille, on avait fait un réveillon chez Colomère. Il y avait Colomère, il y avait sa femme, Madeleine Colomère, il y avait Georges Vidal.
Oui.
Il y avait une poétesse qui est morte récemment, qui s'appelait Hélène Ardan et qui venait de publier un livre aux éditions des Humbles. Et il y avait Maurice Vullens, le directeur des Humbles. Et le lendemain, évidemment, j'étais un petit peu dans le cirage. Et je me suis quand même présenté à la Vache Enragée dans l'après-midi. Je me suis assis, j'ai pris un boc, j'ai payé ma consommation, puis j'ai demandé à voir M. Maurice Salé. J'ai dit, je viens de la part de Vincent Ispa. Je crois qu'il m'avait donné un mot, Ispa. Et je lui ai fait voir sur un cahier écolier, mes petits machins. Bon, Maurice Salé, qui voulait surtout, ça n'est pas le calomnier que de le dire, il voulait surtout constituer un plateau de façon à ce qu'il y ait des gens. Et comme ça, il y avait le public qui buvait des consommations. Il m'a dit, bon, vous voulez débuter ce soir? J'ai dit, oui. Et le soir même, je débutais à la Vache Enragée en chantant des chansons qui ont été applaudies. Oui, elles ont été applaudies. D'ailleurs, à la Vache Enragée, on n'applaudissait pas. Maurice Allais était au rez-de-chaussée, bien sûr, comme tout cabaret qui se respecte. Oui. Au rez-de-chaussée ou au sous-sol, lui, il était au rez-de-chaussée. Et au-dessus, c'était une maison bourgeoise. Déjà, il supportait mal le piano qui accompagnait les gens et les chanteurs. Mais ce qu'il ne supportait pas, il y avait eu des pétitions, c'était des applaudissements.
Ça troublait la quiétude
voilà.
de l'immeuble.
Alors, pour applaudir, on levait le bras, on agitait la main comme une marionnette et on faisait comme des grelots. C'était comme ça. Alors, je suis resté quelques temps là, mais vraiment, mes chansons, je ne sais plus ce que j'avais pu écrire. C'était très mauvais.
Oui, c'était très mauvais.
Quoiqu'un jour, j'ai fait une performance. Vous voyez, il y avait une élection l'après-midi, c'était un dimanche. Il y avait une élection dans le quartier de la Bourse. Et il y avait, vous allez voir combien j'étais naïf, il y avait deux têtes d'affiche en présence. Paul Reynaud et Jacques Duclos.
Et Jacques Duclos, oui.
C'est Duclos qui a été élu. Et j'étais dans un bistrot à côté de la Vache Enragée. Un copain de Maurice Allais qui travaillait dans la presse, je crois que c'était Roger Labrique, l'homme qui avait descendu la Tour Eiffel à bicyclette, en 1925 aussi.
Oui.
Je crois que c'est lui qui a téléphoné, Duclos est élu. Alors aussitôt, j'ai fait la chanson que je suis allé chanter dans le quart d'heure qui a suivi, c'est-à-dire que les gens qui étaient là depuis 8h du soir
ne savaient pas encore le résultat.
Le résultat des élections, c'est moi qui leur ai appris avec une chanson satirique. Et quand j'y ai réfléchi plus tard, j'ai dit que je pouvais être bête. Car il y avait une chose très simple. Dans l'après-midi, j'aurais dû fignoler deux chansons. Une avec Reynaud vainqueur et l'autre avec Duclos. Et le sortir ensuite.
C'est ce que font maintenant même les éditeurs. En cas d'élection présidentielle, ils préparent deux volumes.
Vous voyez comment j'étais naïf. Et honnête.
Et honnête. Et honnête. Non, c'était ça qui me frappait, c'était le côté foncièrement honnête de la chose. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous n'étiez pas très bien fait pour cette carrière, finalement.
Oh, je ne sais pas. Il faut être malhonnête pour être chansonnier.
Non, mais je crois qu'un vrai chansonnier aurait fait les deux chansons.
Eh bien, pour des raisons professionnelles, je lis les journaux très attentivement et j'ai lu que depuis la dernière guerre, je parle de la dernière guerre sérieuse et non de la petite bigorne artisanale qui sévit de ci, de là constamment. Depuis la dernière guerre sérieuse, des organismes également sérieux ont signé 1100 pactes ou traités en vue de l'instauration d'une paix véritable. À la suite de quoi, j'ai fait une petite chanson intitulée « La guerre » par association d'idées. La guerre. Un petit peu partout, des gens raisonnables n'arrêtent pas de signer des pactes soignés et qui vont nous faire un bien effroyable. On devrait se sentir plutôt rassuré. Malgré quoi, on se sent pas mieux. Au contraire, on les a coincés chaque fois plus qu'avant. Maintenant, le traité de paix, c'est une arme de guerre. Et plus on en signe, plus c'est inquiétant. C'est pourquoi la guerre, elle est à l'étude. On sait pas encore, on cherche, on va voir. Pour l'instant, du moins, une seule certitude, il n'est pas question de ne pas l'avoir. La guerre, la guerre, la guerre. On n'avait pas dit que l'autre serait la dernière, on était prévenus, mais ça fait de l'effet de se trouver déjà en pleine avant-guerre. On s'est relevé vite, on peut dire ce qui est. Deux écoles s'affrontent en la conjoncture. Ou la faire plus tard, pour la faire bien mieux, quand on sera bien prêt, dans une Europe dure. Ou la faire tout de suite, pour qu'elle ait pas lieu. Ce serait ce qu'on appelle une guerre préventive, mais c'est hasardeux. Et les dirigeants sont tous pour la paix, une paix attentive qui leur laisse le temps de préparer longuement la guerre, la guerre, la guerre. Notez que quand on cause, comme ici je vous cause, d'après les gens bien, c'est qu'on n'en a pas. Et merde, si j'en ai, je m'en sers pour autre chose, puis ma vie privée ne les regarde pas. D'ailleurs, j'aide pas bien, moi, quand il y a une guerre. Je les gênerais plutôt, je suis très maladroit. Je l'ai bien vu à l'autre, je savais pas la faire. Je ne vois pas pourquoi j'irais me mêler de ça. Et les Amirlocs avec leurs grosses bombes, et Monsieur Joukov, ou Eisenhower, ou Monsieur Picasso avec sa colombe, peuvent tous aller quelque part se faire l'enlair, l'enlair, l'enlair.
Bon, alors, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé par la suite. Enfin, j'ai fait divers métiers, vous savez, je me suis embauché comme garçon de bureau, mais j'avais des cheveux longs. Ah, moi, j'avais des cheveux longs à l'époque où dans Paris, nous étions 200 à avoir des cheveux longs. Tout le monde se retournait sur notre passage. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ces gars-là? Ce sont les anarchistes. Parce que l'affaire Philippe Daudet, le procès Philippe Daudet, avait fait défiler à la barre de la cour d'assises tous les anarchistes chevelus cités comme témoins. Georges Vidal, Colomer. Colomer avait une toison absalonienne. C'était extraordinaire, n'est-ce pas? Et nous étions, je vous dis, 200 dans Paris. Maintenant, ils sont des milliers. Alors moi, je ne marche pas, je me fais raser.
Oui, bon. C'est ça. Vous voulez alors, toujours c'est... le signe distinctif.
Voilà. Et puis, c'est une mode. Bien dans sûr, le temps, c'était sûr. Une affirmation. Car les anarchistes avaient les cheveux longs, pourquoi? Parce qu'en prison, on a les cheveux courts, à la caserne, on a les cheveux courts, et que si on a des cheveux longs, on ne trouve pas d'emploi. Donc, on est obligé de rester en dehors.
Oui, c'était un refus marqué.
C'était un refus. C'était marqué. C'est ça. Alors, où en étais-je?
Parce que ben, si ça... Là, vous aviez les cheveux longs, ce qui ne vous permettait pas, bien sûr, de oui, conserver ce travail de bureau.
Embauché comme manœuvre, j'ai fait toutes sortes de métiers.
Il y a une chose là qui m'intrigue beaucoup dans une biographie réduite, mais vous avez fait là quand même un métier, j'aimerais bien que vous l'expliquiez, parce que ça m'a paru très, très curieux. Vous avez été nègre pour un maître chanteur en alphabet.
Oui, et ça c'est Colomer. C'est Colomer qui m'a procuré ce métier. À l'imprimerie où on imprimait l'insurgé, venait un personnage rondouillard, très suspect, et en effet il l'était, qui faisait imprimer un petit journal de chantage. Et comme ce type-là savait à peine lire et écrire, en tout cas il n'était pas foutu de faire un article, il avait dit à Colomer, vous qui êtes un intellectuel, vous pourriez peut-être écrire mon journal, je vous donnerai les renseignements, vous écrirez les articles. Colomer a dit, mais écoutez monsieur, vous ne pouvez pas quand même vous adresser à moi, qui suis un homme politique, que je ne peux pas m'amuser à ce genre de truc. Et un jour, il me dit, mais dis donc, allez, toi, après tout, tu t'en fous. Tu n'as pas une grande place dans le monde politique. Ça te ferait quand même un peu d'argent. Et après tout, le chantage, on ne reprend de l'argent qu'à ceux qui l'ont déjà volé.
C'est de la récupération.
Alors, il m'a mis en rapport avec ce monsieur, dont je ne dirai pas le nom, et qui faisait ce petit journal. Alors, pendant deux ou trois numéros, j'ai fabriqué son journal. Alors, il me donnait des tuyaux. Alors, j'écrivais un éditorial. Je faisais une chanson, des pensées, des petits poèmes, fables express, des machins comme ça. Il me donnait 150 francs, 200 francs.
Suivant la rentabilité.
Et puis, il fallait souvent réclamer. Réclamer, dites donc, monsieur, les 50 francs que vous me devez. Ah oui, tiens, je ne te les ai pas donnés. Ah, oh, comme c'est bizarre. Ah bah tiens, tiens, voilà 25 francs. Hein. Ce monsieur a fait chanter Jean-Jean Cotil.
Ah bon?
Oui. Jean-Jean Cotil faisait le grand guignol à l'époque, oui. Il n'avait pas encore fait la rumeur, et un jour, mon patron, mon patron analphabète, sort un journal, un numéro de son canard, destiné à Jean-Jean Cotil. Alors, j'ai écrit les articles, pas tous, parce qu'il y avait encore d'autres gars qui devaient travailler là-dedans aussi. Et on a tiré, je sais pas moi, un millier d'exemplaires, pas plus, n'est-ce pas? Mon patron est allé trouver Anquetil. Il lui a dit, voilà le journal qui doit paraître demain, sauf arrangement. Alors, il est revenu à l'imprimerie, il avait un chèque, et il a dit, bon, maintenant, vous pouvez mettre ça au pilon.
C'est ça.
Alors moi, j'ai réussi à tirer un ou deux exemplaires de ces journaux, parce que j'ai toujours aimé collectionner le papier. Et depuis, bon, je les ai perdus, je le regrette d'ailleurs. Et alors là, je m'étais fait une petite fleur dans un de ces canards. Je lui avais demandé une place. Et j'avais rendu compte d'une séance à la Vache enragée.
Ah oui, comme ça, bien sûr.
Où je disais Léo Mallet, le Benjamin de la maison.
C'est ça, qui est très bien.
Non.
Ah non.
Non, non. Non. Chante d'une voix délicieusement fausse telle et telle chanson. Ah non, je m'étais interdit de m'envoyer des fleurs quand même. Écoutez, à mon sens, c'était déjà malhonnête d'écrire un article sur moi-même, si en plus il fallait qu'il soit l'audateur, alors là c'était la fin des haricots. Ça, ma moralité personnelle ne me le permettait pas.
Parmi ces personnages très pittoresques, Léo Mallet, que vous avez rencontré dans les environs de ce milieu anarchiste, ou même de ce maître chanteur dont nous venons de parler, il y a un autre personnage que vous avez évoqué brièvement dans un court texte, qui me fascine assez, qui est le fameux KX.
KX, oui. C'était un collaborateur, je ne sais pas où Colomère était allé le pêcher. C'est-à-dire, Colomère a vu arriver autour de lui, à propos de l'affaire Philippe Daudet et du retentissement de cette affaire et du retentissement de la déposition de Colomère aux assises, qui a été un chef-d'œuvre d'éloquence. Il a vu arriver un tas de gens autour de lui. Et c'est comme ça qu'il a dû connaître KX. Ce KX s'appelait de son vrai nom Marcel Bellotto. Il est mort vers 1950, je crois, quelque chose comme ça. À ce moment-là, il était chef correcteur à François.
À François, oui.
Quand je l'ai connu, moi, il faisait ce qu'on appelle la broquille. C'est-à-dire, c'était un truand. Il avait des sandales aux pieds, enfin des espadrilles, une casquette. Physiquement, il ressemblait un petit peu à André Terrive. Il avait 1m80, un peu voûté, vêtu de velours. Alors, il se promenait sur les marchés. Et derrière une ménagère, il disait « Oh madame, vous venez de laisser tomber quelque chose ». Et alors il sortait d'un papier de soie une gourmette, une petite chaîne. « Ah mais », disait la bonne femme, « non, ça n'est pas moi. Ah tiens, comme c'est curieux, j'ai cru que c'était tombé. Oh, » bah, alors, c'est une trouvaille. Bah, c'est quand même bien, écoutez, personne ne nous a vus. Moi, ça ne m'intéresse pas, je vous la vends.
C'était ça la broquille.
C'est l'escroquerie basée sur la malhonnêteté de la plupart des citoyens. La bonne femme disait, ah ben tiens, c'est pas cher, ça fera plaisir à ma fille, ça me fera plaisir à moi. Et alors, poinçonner et tout, de l'or, c'est du jonc, comme disait KX. Oh, moi j'aurais préféré trouver un kill de rouge, mais c'est quand même du jonc, j'en ai rien à faire. Après tout, personne ne nous a vus, on peut aller au fade, ça vaut à peu près tant, je vous le vends deux thunes.
Donc, et c'était évidemment pas du jonc.
Non, c'était des trucs qui étaient fabriqués exprès pour les types qui marchaient à la broquille. Alors il vivait de ça, mais il en vivait quand même assez mal. Il vivait à Ménilmontant, je crois, dans une soupente. Il se nourrissait exclusivement de filets de hareng et de gros pain et de vin blanc. Et un beau jour, on l'a dit, il y a deux types ici qui sont dans une purée noire, qui donnent une vilaine image de marque de l'anarchie individualiste. C'est Mallet et KX. Ah oui, parce qu'il écrivait des articles signés KX. Ça s'appelait Propos d'un pirate.
Et dans l'insurgé.
Dans l'insurgé. C'était des articles d'ailleurs qui soulevaient des polémiques parce qu'il tapait à droite et à gauche, parce que lui il n'était pas individualiste.
C'est ça.
Alors lui il était presque pour la termitière. Mais comme Colomère était un homme tolérant et éclectique, il acceptait ces articles qui étaient vraiment amusants à lire. Alors on dit il faut quand même les sortir de la purée. Il y avait une place de correcteur qui était libre. Colomère était correcteur, tous les gars qui travaillaient en insurgé étaient correcteurs d'imprimerie. À ce moment-là, le syndicat des correcteurs était aux mains des anarchistes. On a dit, dès qu'il y aura une place de libre, on va faire entrer celui qui a le plus besoin d'argent. Alors, celui qui avait le plus besoin d'argent, c'était moi, parce que moi, je faisais pas la broquille. Mais c'était quand même KX, dans un sens, du fait qu'il était déjà assez âgé. Enfin, âgé, je ne sais pas quel âge il avait. Enfin, moi, j'avais 16 ans, lui, il en avait peut-être 30 et quelques, vous comprenez. Alors, on a dit, mais allez, il a 16 ans, il a l'avenir devant lui, il aura toujours le temps de se débrouiller. Et c'est comme ça que KX est devenu correcteur. Et moi, je continuais à faire le manœuvre ici ou là, n'est-ce pas? Et de temps en temps, retourner à Montpellier.
Ce troisième volet de la série d'entretiens Léo Mallet-Hubert Join a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 4 février 1976. Dès le lendemain soir, les auditeurs pouvaient suivre le quatrième volet, que voici.
Hier soir, Léo Mallet, en conclusion de notre troisième entretien, nous évoquions une anecdote sur ce fameux KX. Vous aviez fait le portrait, mais vous disiez qu'il restait là une anecdote encore significative.
Oui, très amusante.
À nous dire.
Très amusante et très significative, en effet, de ce qu'était ce personnage. Je l'ai retrouvé en 1930, ça devait être 1930, je l'ai retrouvé, il sortait de la bibliothèque municipale du 18e arrondissement, et à ce moment-là, il demeurait rue d'Enraymont. Entre-temps, il avait fait un journal qui s'appelait « Journal de l'homme aux sandales » et toujours rue d'Enraymont. Mais ça, c'était en 28. En 1930, je le rencontre, il demeure toujours rue d'Enraymont. Alors j'ai dit « Je t'écrirai », il me dit « Oui, oui, si tu veux ». Il me dit « Tu sais, le courrier, moi... »
Il habitait dans un hôtel.
Un hôtel. Alors, il avait cette particularité, il n'ouvrait pas son courrier. Il n'attendait pas de courrier. Alors, le courrier qu'il recevait, il ne l'ouvrait pas. Il le faisait ouvrir par le garçon de l'hôtel. Il lui avait dit, vous ouvrirez mon courrier, et s'il y a des choses intéressantes, vous me les signalerez. C'était son secrétaire. Je trouve ça assez drôle, quand même, se servir du garçon d'hôtel comme secrétaire.
Et il avait promis aussi des mémoires, en tout cas.
Ah oui, il avait écrit un livre qui s'appelait « La poupée d'ivoire ». Et alors, quelques années plus tard, 1947-48, à ce moment-là, moi j'avais déjà commencé à écrire mes romans policiers. Je connaissais des éditeurs, en tout cas j'aurais pu faire quelque chose pour lui. Et je lui ai dit « Si tu veux, confie-moi ce manuscrit, on essaiera de le sortir ». Il me dit « Non, puis je le détruirai certainement, tout ça, puis je ne sais pas, il a dû le détruire ». Il n'était pas matulu, pas du tout. Et à ce moment-là, il était chef correcteur à François. Parce qu'il avait
poursuivi sa carrière.
Oui, il était devenu chef correcteur.
À ce moment-là, Léo Mallet, vous aussi, vous avez une activité dans la presse, mais je crois que vous vendez des journaux.
Ah, beaucoup plus tard, parce qu'en 1930, j'étais encore manœuvre. J'étais manœuvre à la maison Ménage, rue Laugier, plomberie, installation sanitaire.
Et c'est grâce à un instrument d'installation sanitaire, un bidet pour dire son nom, que vous avez rencontré le surréalisme.
Voilà.
C'était rue de Clichy, où José Corti avait sa première librairie, et en passant devant, vous avez vu ces choses insolites,
oui,
qui étaient les publications sur
ce qui m'a frappé tout d'abord, ça a été la petite brochure, le petit dépliant, qui s'appelait Le Groupe Surréaliste, Paris en 1930, représentant des vaches dans un pré sur la place de l'Opéra. C'était un collage de Magritte. Et alors, autour, il y avait quelques numéros de la Révolution Surréaliste. Et j'avais entendu parler du surréalisme, mais en mauvaise part. Enfin, sinon en mauvaise part, vous savez comment on parle dans le peuple. Oh, ben celui-là, on rencontre un bonhomme un peu mal foutu. Oh, tiens, il est cubiste. Ou, oh, c'est du futurisme. Ou, tiens, ça, c'est du surréalisme, n'est-ce pas? Beaucoup de gens employaient les mots sans en connaître la signification. Je dois dire qu'à propos de surréalisme, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a encore beaucoup de gens qui parlent de surréalisme sans savoir ce que c'est. Enfin, cette digression faite, je reviens à mon bidet que j'allais livrer je ne sais où. Je regarde ces choses-là, ces couvertures de revues, tout ça me paraissait très intéressant, enfin, bizarre, quoi, vraiment. Et alors, je ne sais pas comment ça se fait, je me suis procuré, c'était cher, le premier numéro de la Révolution surréaliste que j'ai acheté, c'était le numéro 12, c'est-à-dire le dernier de la collection, qui coûtait 20 francs, c'était une somme, moi je l'ai acheté en 1930, il avait paru en 29, j'ai dû l'acheter en 1930. Je connaissais l'autre et amont par les nouvelles littéraires, parce que j'achetais, vous voyez, je m'intéressais quand même à la littérature, si l'on peut dire. J'achetais les nouvelles littéraires. Alors, dans les nouvelles littéraires, j'avais lu des articles de Crevel.
Oui, bien sûr, qui était rédacteur. Oui.
Je crois qu'à l'époque où j'achetais les nouvelles littéraires, je ne sais pas s'il était toujours secrétaire de rédaction, mais enfin, il y avait eu des articles de Crevel. Il y avait eu des articles sur Crevel. Il y avait eu Le Chien Andalou, que ma femme et moi étions allés voir au Studio 28. Ma femme que j'avais connue au Quartier Latin, mademoiselle Paulette Doucet, qui, malheureusement, n'était pas parente de l'autre Doucet, mais voyez comme c'est drôle. Si je peux faire une digression sur les noms, comme bizarre. Ma femme s'appelle Paulette Doucet. Breton et Aragon ont travaillé chez Doucet, le collectionneur.
Le collectionneur, oui, le couturier.
Le général Mallet, c'était le plus grand conspirateur, c'est ce type qui a fait cette conspiration extraordinaire.
Contre Napoléon.
Contre Napoléon. Et savez-vous par qui a été arrêté le général Doucet? Tout le monde s'était incliné devant lui, tout le monde avait compris que Napoléon était mort et qu'on pouvait changer de régime. Le seul qui lui a tenu la dragée haute, c'était un gendarme, il s'appelait Doucet.
Oui. Oui, évidemment. Alors nous retrouvons, comme au premier entretien, le revers dit, n'est-ce pas?
Bon, alors, là maintenant, je m'égare. Alors, revenons au surréalisme. Alors donc, j'ai lu le second manifeste du surréalisme, le premier manifeste qui avait été réédité avec la lettre voyante, je crois, quelque chose dans ce goût-là.
Oui, et Poisson soluble, non?
Poisson soluble, c'était la première édition.
La première édition, oui.
Le second, c'était lettre voyante, je crois. Je ne suis pas très sûr. Enfin, j'ai lu ça. Et je ne sais pas, j'y réfléchissais ces jours-ci lorsque vous m'avez parlé d'avoir des entretiens avec moi, je me suis dit que j'ai fait à ce moment-là quelque chose que maintenant je ne ferai pas. J'ai écrit des textes surréalistes, enfin, la méthode de l'écriture automatique. J'ai écrit ces textes-là, et j'aurais très bien pu les écrire et les garder, mais j'ai eu le culot de les envoyer à André Breton. Et je dois dire que maintenant, avec le recul, je me dis que j'étais vraiment audacieux. Peut-être maintenant, je vieillis, je deviens un peu gâteux, et je me dis, il y a des choses qu'on fait quand on est jeune et qu'on ne fait pas quand on est vieux.
Mais vraiment, autrement dit, vous n'oseriez plus aujourd'hui.
Je n'oserais pas. Car je demeurais avec ma femme, à ce moment-là, nous demeurions dans un hôtel miteux de la chapelle, dans une chambre qui tenait lieu de salle de bain, chambre, cuisine, etc. J'étais vraiment... Et puis, je ne savais rien.
Oui, bien sûr.
Je ne savais rien. Tout ce que je savais, c'était d'instinct. Je savais que j'étais poète. Mais ça, tout le monde se dit poète. J'ai envoyé ça un peu comme une bouteille à la mer, je ne sais pas. Je crois, vous voyez, là, il y a eu quelque chose. Le destin est venu frapper à la porte. Et quelque temps après, j'ai reçu une lettre de Breton. Je suis allé le voir au Café Cyrano. Les textes que je lui ai envoyés lui ont plu. Je suis allé le voir au Café Cyrano. J'ai fait le même jour la connaissance d'Éluard, d'Aragon, car à ce moment-là, Aragon était...
Oui, bien sûr, oui.
Et j'ai été accepté d'emblée. J'ai lu récemment que certains membres du groupe surréaliste étaient soumis à une sorte de stage, de choses de ce genre. Je dois dire que moi, de mon temps, comme on dit, en tout cas en ce qui me concerne personnellement, je n'ai jamais passé d'examen.
Oui, mais vous ne pensez pas qu'il y a là un peu de légendaire, parce que vous dites vous-même, parce que vous avez des souvenirs de Breton, j'aimerais bien que vous les évoquiez, qu'il y a là quand même cette idée du pape, cette idée d'homme parfaitement dépourvu d'humour. Est-ce que ce n'est pas un peu faux?
Ah, c'est absolument faux! C'est absolument faux.
Comment était-il?
Non, il y avait une chose. Chez Breton, il répandait une sorte de magnétisme, certainement. Je crois.
Cette tête léonine, enfin, c'est
voilà,
certainement
oui,
très...
ce romain.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Et un magnétisme. Il est certain que s'il avait voulu, et c'est tout à son honneur de ne pas l'avoir voulu, s'il avait voulu être chef de parti, je suis persuadé qu'il aurait entraîné des masses derrière lui, par son magnétisme, je crois. Mais c'était loin de ses préoccupations, et c'est tout
bien
à son honneur de ne pas l'avoir fait. Donc, évidemment, il était imposant, mais il n'en imposait pas. Je ne l'ai jamais considéré comme un pape, je l'ai toujours considéré comme un camarade fraternel et vraiment très fraternel. Très fraternel.
Vous dites qu'il aimait même prendre s'amuser, enfin.
Mais bien sûr, il écoutait des disques, des chansons de Dranem et des disques d'Offenbach.
Vous dites qu'avec Offenbach, il ne se tenait pas de joie.
Il riait. Ça n'était pas un homme marmoréen, comme tout le monde maintenant dit. Je ne sais pas si vers la fin de sa vie, il ne s'était pas pris pour André Breton. Moi, je me prends bien pour Léo Mallet. Mais enfin, quand je l'ai connu, vraiment, il y avait ce magnétisme, évidemment. Et je dois dire qu'on était fiers d'être un ami d'André Breton. Et je suis encore fier d'avoir connu cet homme. Et je suis fier de voir le cas que l'on fait de lui aussi.
D'ailleurs, je crois que vous l'avez bien amusé, vous l'avez même fait rire en lui disant que vous aviez découvert Maldoror.
Ah
oui,
les Nouvelles Littéraires, parce que c'était un journal qui... qui ne le prisaient pas beaucoup.
Et oui, les nouvelles littéraires, je crois, avaient censuré le surréalisme, les avaient mis en quarantaine.
Les nouvelles littéraires avaient été attaquées à une époque, attaquées, je veux dire, en force. Il y avait eu un commando surréaliste qui s'était emparé des nouvelles littéraires, qui était entré dans les bureaux, les avait saccagés des manifestations surréalistes de l'époque, quoi.
Nous avons, au cours de ces entretiens, évoqué Peter Ibbetson, c'est le jardin, le grand appartement de 25 pièces, c'est Montpellier. Et si on lit vos poèmes surréalistes, et même extrapolons Nestor Burma, il y a un tracé des chants de Maldoror chez vous. C'est-à-dire que c'est quand même très curieux que dans les poèmes surréalistes, soit à l'époque, je crois que c'est en tête de Vie et survie du vampire, ou bien de J'arbre comme cadavre,
je ne sais pas. Non, c'est Vie et survie du vampire, la citation.
La citation, eh bien, cette citation, c'est la rue Vivienne, c'est-à-dire un quartier de Paris, okay. Et que deviendra l'épopée de Nestor Burma, sinon une épopée à travers ces quartiers de Paris, rue des Petits Champs, etc.
C'est ça.
Et je crois que ça vous a marqué après le dernier chant.
Alors, toujours à peu près à la même époque, parce que tout ça se passe quand même assez rapidement. Les nouvelles littéraires qui parlent de Lautréamont, Philippe Soupeau qui publie les œuvres complètes du comte de Lautréamont, l'achat du 12e numéro de la Révolution surréaliste, le Manifeste du surréalisme.
La rencontre de Breton.
Lettre aux voyants. Mais avant la rencontre, l'achat, justement, des chants de Maldoror que venait de faire apparaître au Sans Pareil Philippe Soupeau. Et alors là, je dois dire que évidemment, j'ai été emballé. Peut-être pas tout de suite, car vous savez, au bout d'un certain nombre de pages de Lautréamont, ça devient un petit peu lassant. Il semble que ce soit toujours pareil, ça n'est jamais pareil, mais enfin, il y a cette monotonie. Mais alors, il y a une chose absolument extraordinaire dans les chants de Maldoror, c'est ce que Lautréamont appelle, je crois, le roman, c'est-à-dire le dernier chant, qui raconte une histoire mystérieuse, qui est un véritable roman populaire, avec la suite au prochain numéro, car un des chants se termine. Mais que fait cet homme noir sur le pont du carrousel? Quels sont les cris qui sortent du sac que le chiffonnier à la nuit tombante? Et ça, c'est l'atmosphère du Paris mystérieux, c'est l'atmosphère des romans populaires.
Un peu ce que Macorlan appelle fantastique social aussi.
Oui, c'est ça. Oui.
Parce que il m'a toujours paru assez évident qu'il y a aussi des rapprochements entre Macorlan et vous. Enfin, lorsque vous entrerez dans ce que vous n'appelez pas justement roman policier, mais aventure policière ou roman d'aventure policière populaire, il me semble qu'il y a quand même un certain rapport. Parce qu'il y a aussi chez Macorlan ce sens de Paris, enfin, une sorte de dérive.
Ce fantastique social, c'est une bonne étiquette qu'a trouvé Macorlan, mais ce fantastique social, ce sont les faits divers
et peut-être autre chose. Quelque part, dans les poèmes surréalistes, ou dans une note plus exactement des poèmes surréalistes, vous écrivez un rêve, ou bien c'est dans les Cahiers du silence, je ne sais plus, mais c'est une transcription de rêve que vous faites. Et vous rajoutez une note en disant « J'ai trouvé l'équivalent de ceci dans le rêve lunaire de Henrade,
oui.
Joris Carl Huysmans. »
Oui.
Alors, cette petite phrase m'a beaucoup frappé parce que André Breton, justement, dans l'anthologie de l'humour noir, vous savez, cite Huysmans, il donne un court chapitre de Huysmans, et pour se justifier de ce choix, pour dire ce qu'il aime dans Huysmans, il dit que ce qu'il y a de particulier dans le Huysmans naturaliste, en fait des sortes bâtardes, en ménage, c'est que Huysmans donne de chaque quartier de Paris une image parfaitement close. C'est-à-dire que chaque quartier de Paris, il l'a décrit avec son odeur, avec son climat, avec sa couleur, on pourrait dire. Et je crois que c'est Simonin qui dit de vous que chaque arrondissement de Paris devient pour vous un village. Enfin, est décrit comme un lieu clos également, puisque Simonin dit même que les crimes que Nestor Burma va élucider ne pouvaient se passer que
dans ce quartier déterminé.
Alors là, c'est je faisais là une incise pour montrer encore, si vous voulez, ce rapport, puisque Breton aimait ce huissement, c'est que quand vous quittez les surréalistes pour écrire des romans policiers, eh bien, c'est ce huissement, c'est un peu que vous retrouvez.
Oui,
lorsque vous quittez les surréalistes, vous les quittez parce que vous trouvez qu'il est incompatible.
Non, c'est-à-dire que pour gagner ma vie, j'ai été obligé d'écrire des romans policiers. Voilà. Obligé, enfin, c'est pas le mot. Il fallait que je trouve un travail. Écrire des romans policiers, c'était quand même préférable à autre chose, n'est-ce pas ?
Oui, mais auparavant, vous aviez écrit des poèmes.
Ah oui, ça, j'ai écrit des poèmes dès que j'ai été au groupe surréaliste. J'ai écrit avant le groupe surréaliste, des textes automatiques que j'ai envoyés à Breton, et puis j'ai écrit des poèmes. J'ai écrit des poèmes.
Une soixantaine en tout.
Oui, très peu. Il y en a peut-être deux ou trois encore qui traînent dans des tiroirs, mais très peu, très peu.
Et ces poèmes, alors, ont paru en plaquette. Je crois que Magritte les aimait beaucoup. Vous avez un rapport avec René Magritte.
Magritte aimait beaucoup mes romans et mes poèmes. J'ai été en correspondance suivie avec Magritte.
Il vous a illustré, d'ailleurs.
Oui.
Comme autre illustrateur, vous avez eu André Masson.
Oui, pour Hurle à la vie, un poème, le dernier bouquin paru aux éditions surréalistes en 1939-40. Il était à cheval sur 39-40. Ça a été la dernière production du groupe surréaliste, comme édition.
Parce qu'après, je crois, Noël Arnaud,
vous avez à la main à plume.
Oui, c'est ça. Oui, notamment le très beau poème, Le frère de la Senaire, que vous dédiez à Maurice N.
Oui, ce frère de la Senaire, en somme, c'est Eugène Weitmann, le fameux assassin de la Voulzy. Et avec Maurice Sainz, Georges Mouton et Henri Pastoureau, nous avions projeté d'écrire une brochure sur Weitmann. J'avais eu des idées assez drôles sur cette affaire-là, et puis finalement ça ne s'est pas fait parce que vous savez ce que c'est. À ce moment-là, il n'y avait pas d'éditeur. Actuellement, on fait un truc sur le surréalisme, on trouve un éditeur. On fait une thèse sur l'influence des vents alizés sur la masturbation chez les oiseaux de proie. On trouve un éditeur. À cette époque-là, on n'en trouvait pas, il fallait s'éditer soi-même. Alors comme nous n'avions pas d'argent, on a laissé tomber. Et puis là-dessus, la guerre est venue. Comme vous disiez tout à l'heure, je vendais des journaux au coin de la rue des Petits Champs, qui n'est pas loin de la rue Vivienne.
C'est ça, oui, justement.
Parce que là, nous avons encore les lieux géographiques qui se tiennent. Et quand je vendais des journaux rue Vivienne, je recevais assez régulièrement la visite de Salvador Dali, qui venait discuter le coup avec moi pendant que je vendais mes journaux.
Je crois que vous criez les journaux avec accent faubourien.
C'est-à-dire, je vendais...
L'intransigeant.
Je vendais l'intransigeant.
Alors, vous disiez comment ?
Attendez, je vendais l'intransigeant, je vendais Paris Soir... Et ce soir, voulez-vous que je vous fasse je vais pas pouvoir maintenant. Alors, pourrissoir, l'étron, suçoir dernier.
Je voudrais quand même, Léo Mallet, à la fin de cet entretien-ci, enfin avant que nous le terminions, que vous nous lisiez des poèmes surréalistes, un très court poème. Je ne sais pas, peut-être celui qui s'appelle Gilles de Ré.
Gilles de Ré. Cire de mâche-coul, quel nom sonore aux échos de faim, mâche-cou, mâche-cul. Les dents capitales du donjon se hérissent, prêtes à mordre la jambe du ciel, comme un chien de berger les brebis qui s'égarent, remettre enfin le ciel à sa vraie place et faire l'alchimiste avec des corps d'enfant. Pour un compagnon de Jeanne d'Arc, c'est du propre.
Et enfin, ces 60 poèmes, cette soixantaine de poèmes, disons en gros, il faut quand même dire que nous les ignorions pratiquement. Sauf les fervents collectionneurs de publications surréalistes, il faut dire que tout cela était tiré en de tout petits tirages, enfin un peu d'exemplaires.
Mais même ceux qui ambitionnaient un gros tirage comme Hurle à la vie, dont on parlait tout à l'heure, illustré par Masson, tiré à 150 exemplaires, j'avais trouvé un imprimeur que j'avais payé d'ailleurs, quand j'avais eu l'argent je l'avais payé, mais je n'étais pas allé rechercher la totalité du tirage. Et pour son malheur, cet imprimeur s'appelait Bérezniak.
Ah oui.
Et la guerre est arrivée là-dessus, les Allemands plutôt sont arrivés là-dessus, et je n'étais pas allé rechercher la totalité de mes bouquins. Ce qui fait que ce malheureux Bérezniak a été enlevé, on ne l'a jamais revu certainement, et beaucoup de papiers qui étaient dans son imprimerie ont également disparu. Ce qui fait que finalement, ce bouquin qui était tiré à 150 exemplaires, j'en ai eu entre les mains qu'une soixantaine. Le restant a été détruit, soit que les gens qui sont venus arrêter Bérezniak aient tout fichu en l'air, ou les aient emportés, de toute façon, ils n'ont pas dû en faire collection, vous comprenez ? Alors, vous voyez, c'était même les gros tirages. Parce que les autres étaient tirés à 30 exemplaires. Très, très peu, toujours très peu.
Oui, mais ce qu'il y a de remarquable avec, enfin, maintenant, l'édition intégrale des poèmes surréalistes chez Alfred Ebel, c'est une étonnante modernité qu'il y a chez vous, Léo Mallet. Je veux dire que beaucoup de gens ont écrit des poèmes surréalistes au temps des surréalistes, et il est évident que ces poèmes se sont défaits. Enfin, que maintenant, on se dit, oh là là, oui, c'est un texte automatique, il semble pas y avoir quelque chose derrière. Et chez vous, c'est un peu le contraire, enfin. C'est-à-dire que vous avez fait des poèmes surréalistes, et je vous le dis, c'est une opinion de critique, sans être marqué par les tics de certains de ces poèmes. Et c'est pour ça qu'ils me paraissent étonnamment lisibles.
C'est ce qu'on m'a dit.
Aujourd'hui.
C'est ce qu'on m'a dit.
C'est ce qui ressort, d'ailleurs, d'un dossier Léo Mallet qui sert de préface à ces poèmes surréalistes, mais vous allez rompre avec cette activité, basculer dans le roman policier, découvrir Nestor Burma, et ce sera le sujet de notre dernier entretien demain soir.
Ces épisodes 3 et 4 de la série d'entretiens Léo Mallet – Hubert Join ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 4 et 5 février 1976. À suivre.